7h.
Il est 7h.
Février sur le site apafrique.rfi.fr.
apafrique.rfi.fr.
RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
RFI Matin, deuxième heure et le journal pour commencer. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, Haïti est à la veille d'un plongeon vertigineux.
Dans une incertitude politique abyssale, alors que le mandat du Conseil présidentiel de transition arrivera à son terme demain, pendant 22 mois, cette instance n'aura jamais su rétablir de stabilité institutionnelle et sécuritaire. Les gangs contrôlent encore de larges portions de la capitale. Port-au-Prince, les affrontements avec les forces de l'ordre sont quotidiens. RFI sera en édition spéciale à partir de 7h10, temps universel. Au sommaire aussi ce matin, l'appel iranien pour un respect mutuel. Lors des négociations programmées aujourd'hui à Oman avec les États-Unis, l'armée américaine reste déployée massivement dans le golfe Persique et menace toujours d'intervention en cas d'échec des pourparlers. On vous présente les enjeux de ces discussions dans ce journal. Et puis le nord de l'Italie s'apprête à accueillir le gratin des skieurs, patineurs et autres hockeyeurs du monde entier. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina s'ouvre officiellement aujourd'hui.
Un désastre sécuritaire et de très minces espoirs d'embellie en Haïti.
Mais c'est le bilan que l'on peut tirer de 22 mois de conseil présidentiel de transition. Son mandat arrivera à son terme demain et à cette occasion, RFI organise une journée spéciale pour raconter la vie sur place, notamment marquée par l'emprise des gangs qui contrôlent toujours 80% de Port-au-Prince. Plus de 10 000 personnes ont été tuées depuis avril 2024 selon les chiffres de l'ONU. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre soutenues par des mercenaires et une mission approuvée justement par les Nations Unies ont multiplié les opérations dans la capitale haïtienne. Nos envoyés spéciaux Achim Lippold et Justine Fontaine ont suivi l'une de ces patrouilles de police.
Rendez-vous est donné sur la place du Champ de Mars. Il y a quelques années encore, c'était le cœur de la capitale.
Les enfants jouaient beaucoup ici.
Ce policier, Chandler, nous accompagne avec trois de ses collègues dans un blindé tout neuf, offert par les États-Unis il y a un mois. Portail éventré et criblé de balles, murs effondrés, maisons pillées et brûlées. Les rues où nous passons sont presque totalement désertes et ressemblent à une zone de guerre.
Moi, j'habitais un petit peu plus loin. Jusqu'à l'arrivée des bandits.
Il y a un peu plus d'un an, il a dû fuir avec toute sa famille et a perdu sa maison. Depuis décembre, les forces de l'ordre ont fait reculer les gangs par endroits. 700 hommes et femmes ont aussi rejoint le mois dernier les rangs de la police.
Tant qu'on est nombreux, le travail devient un peu plus facile à faire.
Mais les groupes armés ne sont pas totalement partis du centre-ville. Des hommes lancent vers nous des cocktails Molotov. Un policier tire depuis notre blindé pour sortir de la zone. Au coin de l'avenue, un bus plein à craquer qui fait la route vers des quartiers contrôlés par les gangs s'est arrêté le temps que les tirs cessent. Ces passagers sont obligés de traverser la zone tous les jours et risquent de recevoir des balles perdues ou de subir des exactions de la part des groupes armés ou même des forces de l'ordre. Achim Lippold, Justine Fontaine, Port-au-Prince, RFI.
La direction de la police haïtienne n'a pas souhaité s'exprimer au micro de RFI. D'après l'ONG haïtienne Combit, plus de 50 civils ont été tués lors des opérations de police à Port-au-Prince, rien que pendant la première quinzaine du mois de janvier. La fin annoncée du mandat du Conseil présidentiel en Haïti, elle a provoqué une forte agitation politique ces derniers jours, avec notamment plusieurs tentatives de renversement du Premier ministre. François-Damien Bourgeois, les États-Unis surveillent aussi la situation de très près.
Les trois navires de guerre états-uniens dans la baie de Port-au-Prince en disent long sur l'atmosphère qui règne en Haïti, avec des gangs qui contrôlent 80% de la capitale et qui renforcent leur présence dans plusieurs régions. Mais la crise est aussi politique. Un nouveau calendrier électoral a été adopté en décembre, des élections générales avec un premier tour le 30 août 2026 et un second le 6 décembre. En attendant, l'incertitude est totale sur la durée et la forme que prendra la nouvelle transition, et la lutte d'influence bat son plein. 2020. À quelques jours de la fin de leur mandat, 5 des 7 membres du CPT ont appelé à révoquer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le président de la transition, Laurent Saint-Cyr, a refusé de donner suite et Washington a sanctionné 5 conseillers accusés de collusion avec les gangs. Cette semaine, 3 membres de ce conseil ont multiplié les rendez-vous politiques pour tenter de préparer la suite. Mais le soutien de l'administration Trump au Premier ministre est indéfectible et à ceux qui chercheraient à le renverser, les 3 navires de guerre qui mouillent dans la baie de Port-au-Prince sonnent comme un nouvel avertissement.
François-Damien Bourgerie. Et pour poursuivre l'analyse de la situation en Haïti, RFI sera donc en édition spéciale à partir de 7h10 temps universel. Dans le centre de l'Ukraine, un couple a été tué cette nuit dans une frappe de drone sur leur maison. Ça s'est passé dans la région de Zaporijjia, selon les autorités militaires locales. Un nouveau bombardement qui survient au lendemain de discussions entre délégations russes, ukrainiennes et américaines à Abu Dhabi. Seul un échange de prisonniers a été conclu, mais pas de règlement sur la question cruciale des territoires ukrainiens convoités par Moscou. De nouvelles tractations doivent se tenir dans les prochaines semaines, selon Kiev, qui n'a pas donné de date précise.
Les États-Unis également à la baguette pour faire plier l'Iran,
qui appelle ce matin, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, au respect mutuel, à l'égalité et à l'intérêt réciproque lors d'une session de négociation à Oman. Elle doit commencer dans une heure environ. La délégation américaine sera conduite par Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump. Après la sanglante répression du mouvement de contestation du mois de janvier, le pouvoir iranien arrive dans une posture délicate à Oman, Nicolas Falaise.
D'un côté, une république islamique affaiblie par une série de revers. Les bombardements israéliens et américains sur les installations nucléaires iraniennes en juin dernier, la chute du régime allié de Bachar el-Assad en Syrie, l'effondrement militaire du Hezbollah libanais. Fragilisé dans la région, l'Iran est défié par la contestation intérieure à laquelle il a répondu par une répression d'une ampleur inédite. En face, les États-Unis de Donald Trump qui ont massé de spectaculaires moyens militaires dans la région. Pression maximale pour exigence radicale. Selon Washington, l'Iran doit renoncer à enrichir de l'uranium, réduire drastiquement son arsenal de missiles, cesser d'armer ses alliés dans la région et mettre fin à la répression sur son sol. Officiellement, Téhéran ne veut parler que de son programme nucléaire, ce qui dans la région alimente la crainte d'une opération militaire américaine, tout comme les scénarios d'une riposte iranienne sur les bases militaires américaines au Moyen-Orient ou en direction d'Israël.
Explication de Nicolas Falaise. Les États-Unis qui ont annoncé avoir tué 2 personnes dans une nouvelle frappe sur un bateau de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique cette nuit. La lutte contre le trafic de drogue qui avait conduit il y a plus d'un mois à l'enlèvement de Nicolas Maduro est mis depuis sous pression le régime de Caracas. Hier soir, le Parlement vénézuélien a voté en première lecture une loi d'amnistie pour les prisonniers politiques. Un texte qui couvre la période allant de 1997 à aujourd'hui. Un événement important pour la paix et la réconciliation nationale, selon les mots de la présidente par intérim Delcy Rodriguez.
Paix et réconciliation, des mots qui résonnaient aussi dans le discours de Félix Tshisekedi hier à Washington.
Le président congolais qui était l'un des invités d'honneur d'un petit déjeuner de prière annuel en ouverture d'un forum réunissant le gouvernement et la société civile. Son homologue rwandais Paul Kagame est lui aussi largement revenu sur le conflit dans l'est de la RDC, Lucie Mouillot.
Face aux menaces de sanctions de la communauté internationale, le président rwandais Paul Kagame affirme ne pas céder.
Parfois on se sent étouffé, mais je préfère m'étouffer en défiant ces menaces et en vous disant d'aller en enfer. Vous ne pouvez pas me créer des problèmes, puis venir m'en rendre responsable et ensuite commencer à me menacer. La conversation finit par tourner autour des menaces au lieu de s'attaquer aux problèmes.
Dans son discours, le chef de l'État dénonce une nouvelle fois les menaces posées, selon lui, pour son pays par les FDLR, groupe armé composé à l'origine d'anciens génocidaires, critiquant l'attention portée à la place à la question de la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais.
Si vous répondez non, les mesures défensives que nous avons prises sont considérées comme inexistantes. Si vous répondez oui, cela devient le seul problème au monde dont il faut s'occuper. En disant oui, tous les autres problèmes disparaissent et vous leur facilitez la tâche pour faire porter sur vos épaules l'ensemble des problèmes du Congo.
Répondant aux accusations d'accaparement des ressources minières de la République démocratique du Congo, le président Paul Kagame affirme, je cite, « Si nous étions en RDC pour les minerais, le Rwanda serait 100 fois plus riche ». Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Lui est au pouvoir depuis 40 ans au Congo-Brazzaville et ne compte pas lâcher son fauteuil présidentiel. Denis Sassou Nguesso, 82 ans, a annoncé hier, lors d'un déplacement au nord de Brazzaville, sa candidature pour l'élection présidentielle. Élection qui doit avoir lieu le mois prochain.
20 ans après, les Alpes redeviennent le cœur battant des sports d'hiver.
Des Jeux Olympiques d'hiver qui retournent en Italie, pile deux décennies après ceux de Turin. Cette année, pendant deux semaines, 2900 athlètes vont participer aux compétitions et ce soir l'événement s'ouvre officiellement avec la cérémonie d'ouverture au stade San Siro de Milan. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Paul.
Vous êtes notre envoyé spécial pour ces JO d'hiver. Christophe, le spectacle se tiendra donc à la fois dans la capitale lombarde mais aussi simultanément sur quatre autres sites, comme pour rappeler l'éclatement inédit de ces Jeux.
Exactement, un terrain de jeu de 22 000 km² au total, de la Lombardie à la Vénétie, dans le nord de la péninsule. 7 sites, parmi eux Milan pour le hockey sur glace et le patinage, Bormio à l'ouest pour le ski alpin masculin, les épreuves féminines ayant lieu à Cortina à plus de 300 km avec les sports de glisse, le bobsleigh ou la luge, le biathlon à Anterselva près de la frontière autrichienne, l'idée étant de coller le plus possible au principe désormais directeur du Comité international olympique des Jeux utilisant au maximum des installations existantes et historiques, c'est le cas à plus de 80% pour cette édition, afin de réduire la facture globale de l'organisation, estimée à plus de 5 milliards d'euros, quitte à gonfler le bilan carbone en transport et à imposer aux participants un gros défi logistique. Le défi de l'organisation, lui, livrer les Jeux à temps, n'est pas encore totalement relevé. La patinoire de hockey sur glace de Milan, déjà inaugurée avec retard il y a moins d'un mois, n'était pas dans un état optimal avant le début du tournoi féminin hier. Beaucoup plus ennuyeux, le téléphérique de Cortina, censé transporter des milliers de spectateurs vers la piste de Tofane, est encore en travaux alors qu'elle devait servir de moyen de désengorgement de la circulation dans cette station très prisée des Dolomites.
Merci beaucoup Christophe Diremzian.
Et puis ce vendredi marque un pas supplémentaire vers les élections municipales du mois prochain en France.
Oui, c'est la date limite aujourd'hui pour s'inscrire sur les listes électorales dans les mairies et le risque d'être mal ou pas inscrit concerne 10 millions de personnes. Pour les accompagner dans cette démarche, l'ONG A Voter a été créée en 2021 à Paris. Sylvie Coffi a suivi une opération de sensibilisation auprès des étudiants.
C'est de manière ludique, Atitiya Anantaraja de l'ONG A Voter aborde un groupe d'étudiants.
Est-ce que vous savez ce qui se passe le 15 mars?
C'est les européennes.
Non, c'est les municipales.
Oui, bien joué, ah, bravo. Vous êtes sur quelle ville?
Moi, faut que je vérifie.
Je suis là pour ça.
Mais non.
C'est vrai.
L'idée est de les prendre par la main et ça ne prend que quelques minutes.
Le taux d'abstention chez les jeunes, il est énorme. Et donc, ça a tout son intérêt aujourd'hui d'être là avec l'ONG A Voter.
Atitiya Anantaraja de l'ONG A Voter.
Pour pouvoir sensibiliser les jeunes, donc aussi à vérifier leur inscription sur les listes électorales et les pousser à s'inscrire.
Une personne sur cinq est mal inscrite. Et ça concerne les jeunes qui sont en mobilité. Ils quittent le domicile familial pour aller étudier dans une autre ville. Et si dès 18 ans, l'inscription est automatique, en cas de déménagement, il faut faire la démarche.
Je viens de déménager, du coup, j'ai pas pu faire toute la procédure. Je sais même pas où aller ma mairie. Donc... Parce que j'ai jamais voté avant.
A Voter est donc là pour les guider.
Et bien, vous êtes bien inscrite
Non, toujours
non,
pas.
Toujours pas.
Et bien, je vous invite vraiment à vous rendre à la mairie de Bussy-Saint-Georges.
Et jusqu'au 15 mars inclus, l'idée est de rappeler à tous les citoyens que voter est un droit fondamental.
Sylvie Coffi
et Paul Lonsin-Spinelli pour le journal. Merci beaucoup, 7h13 à Paris. Et tout de suite les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
Je déclare ouvert votre journal en ce vendredi, jour de la cérémonie inaugurale des Jeux Olympiques d'hiver en Italie.
Traditionnel rendez-vous de début des Jeux qui signe le retour des JO d'hiver en Italie, 20 ans après leur dernière tenue à Turin et 70 ans après avoir déjà élu domicile à Cortina d'Ampezzo. Cette cérémonie, la Française Camille Cerruti, qui prendra part à la descente de dimanche, l'attend avec grand plaisir pour effacer une certaine frustration d'il y a 4 ans.
Ça va être
cette première cérémonie d'ouverture parce qu'on l'avait pas faite à Pékin. On n'avait pas eu le droit avec le Covid. Non, je pense que juste vivre ça avec l'équipe, vivre ça avec les autres athlètes et aussi avoir la chance d'avoir ma famille sur le bord, c'est quand même super. Moi, j'ai ma famille qui se déplace de Marseille, tous mes frères et sœurs qui seront là. Donc ouais, j'ai hâte de vivre ça, croiser leurs regards dans la rue et ouais, vivre ça pleinement. Je pense que c'est quelque chose qui va te motiver et qui galvanise une équipe.
Camille Cerruti avec Christophe Diremzian. La cérémonie d'ouverture de ces JO d'hiver débutera à 19h, temps universel.
En France, les huitièmes de finale de la Coupe Strasbourg, dernier qualifié pour les quarts.
Les Alsaciens ont dominé Monaco 3-1. Godot n'a pas attendu longtemps, 7 minutes à peine pour ouvrir le score avant un doublé du paraguayen Julio Enciso. Un deuxième quart de finale en 3 éditions pour Strasbourg avec ce qui n'est pas rien, un jeu séduisant, d'où la satisfaction du capitaine Ismaël Doucouré.
Je suis super heureux, je suis super content de ce groupe. Voilà, on s'est donné les moyens aujourd'hui pour remporter ce match et je pense que c'est un beau spectacle. On prend beaucoup de plaisir. Voilà, après on essaye de vraiment avoir des liens forts, on va dire, en dehors du terrain. Et je pense que sur le terrain, ça se ressent, on se donne les uns pour les autres et il n'y a pas mieux.
Ismaël Doucouré chez nos confrères de Beansport. Au prochain tour, Strasbourg recevra Reims, dernier représentant de Ligue 2.
Strasbourg qui enchaînera ce week-end avec la 21e journée de Ligue 1, journée qui commence dès ce soir.
Metz, lanterne rouge avec 3 défaites de rang, reçoit Lille, 5e qui reste sur 4 revers consécutifs. Coup d'envoi 19h45, temps universel.
Enfin en rugby, début du tournoi des 6 nations hier avec une équipe de France tout feu tout flamme.
Les Bleus remettaient officiellement leur titre en jeu face aux Irlandais. Le 15 de France a composé le 36-14, large succès des joueurs de Christophe Galtier qui menait 22-0 à la mi-temps avant de voir le 15 du Trèfle réagir et inscrire 14 points en moins de 5 minutes. Mais pas de quoi faire paniquer les Français. Petite piqûre de rappel toutefois sur la nature de leur adversaire selon Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France.
En face, il y a un adversaire qui est classé numéro 3 en rang mondial, il ne faut pas oublier. Même si peut-être la performance qu'ils ont réalisée pendant 50 minutes, on a oublié qu'il y avait l'Irlande en face de la France. C'est vrai que j'avais dit qu'il fallait... Tout serait pas parfait. Et de toute façon, c'est rarement parfait. Je crois qu'il faut être humble à ce niveau-là. Il faut accepter de se tromper. On s'est trompé par moments. Voilà, c'est arrivé. Mais peu comparé à ce qui a été réalisé de bien dans ce match.
Fabien Galtier avec Pauline Guillou. La suite de ce tournoi destination, ça sera samedi avec Italie, Écosse et Angleterre, Pays de Galles pour le 15 de France. Prochain rendez-vous la semaine prochaine face aux Gallois.
Antoine Grenier, merci beaucoup. Et bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
RFI en journée spéciale Haïti aujourd'hui, à la veille de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. L'occasion pour nous, dans Aujourd'hui l'économie, de faire l'état des lieux de cette économie haïtienne en crise. Stéphane, tous les indicateurs sont dans le rouge.
Oui, et le plus révélateur, c'est la croissance. Voilà maintenant 7 ans qu'elle est négative. Concrètement, cela signifie qu'année après année, le pays produit moins de richesses. Cette récession s'accompagne d'un autre fléau, c'est l'inflation. En 2023, la hausse des prix atteignait plus de 44%. Alors si depuis elle a reflué, elle reste aujourd'hui très importante, entre 25 et 30%, à tel point que l'un des grands quotidiens nationaux, le Nouvelliste, titrait ces dernières semaines « L'économie haïtienne productrice de pauvreté ».
Donc tout augmente, tout le temps, sans que les revenus ne suivent cette dynamique.
Exactement, le pouvoir d'achat ne cesse de s'effondrer. Résultat, la consommation recule et les entreprises voient mécaniquement leur chiffre d'affaires baisser. À cela s'ajoute un autre mécanisme un peu plus technique, mais tout aussi déterminant, c'est le taux de change. Et c'est important car Haïti reçoit de colossaux transferts d'argent de sa diaspora. Un chiffre à retenir, environ 80% de la population en dépend. Sauf que voilà, ces transferts se font en dollars, des dollars qu'il faut changer en gourde, la monnaie du pays. Mais ce taux de change est resté figé alors que l'inflation, on l'a expliqué, elle a bondi. Autrement dit, pour chaque dollar envoyé, les familles reçoivent proportionnellement moins de gourdes. On estime d'ailleurs aujourd'hui que 6 Haïtiens sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté.
Justement, Stéphane, l'argent de la diaspora n'est pas utilisé pour investir dans l'économie haïtienne, mais pour consommer.
Voilà, et un pays qui vit des transferts sans production suffisante, comme on l'a dit, eh bien, il ne prépare pas son développement. Et si l'investissement ne repart pas, ça tient en un mot. L'insécurité, les gangs contrôlent des quartiers entiers, des routes stratégiques, ils imposent des péages illégaux, ils kidnappent, ils rackettent. Cela affecte les chaînes d'approvisionnement, donc le recrutement et surtout l'investissement. Pour preuve, en 2018, les investissements directs étrangers étaient de 100 millions de dollars. Depuis, ces IDE sont proches de zéro. Il ne s'agit, quand il y en a, que de réinvestissements techniques, notamment pour l'entretien des infrastructures comme par exemple les télécoms. En résumé, Julien, investir en Haïti devient un risque majeur pour les investisseurs.
Et cette insécurité se superpose à une crise politique et institutionnelle.
Précisément, l'appareil d'État apparaît inefficace, mal organisé, miné par la corruption. La confiance n'est plus là. L'instabilité politique est devenue habituelle, ce qui nuit évidemment aux affaires. Car en fait, la précarisation de l'appareil étatique a pour conséquence cette précarisation de la société haïtienne. Et c'est dans ce contexte que s'achève donc le mandat du Conseil présidentiel de transition. En tout cas, les économistes, eux, convergent sur un point. Sans réformes structurelles de long terme et de fond, l'économie du pays continuera de souffrir. Sur le papier, certains scénarios évoquent un possible rebond de la croissance à partir de cette année, plus 2%. Mais cela est évidemment conditionné à des hypothèses fortes comme l'amélioration tangible de la sécurité et la stabilisation politique. C'est donc ce nouveau chapitre qui doit s'ouvrir demain samedi afin de retrouver un minimum de confiance chez les investisseurs, chez les partenaires internationaux et chez les ménages.
Stéphane Genest, merci beaucoup. Et en cette journée spéciale consacrée à la situation en Haïti, notre invité ce matin sur RFI est l'ambassadeur de France dans le pays. Bonjour Antoine Michon.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. À Port-au-Prince, où le mandat du Conseil présidentiel de transition se termine donc demain. Il avait été créé en 2024 avec pour principale mission de rétablir la sécurité. Peut-on dire qu'il a échoué ?
Écoutez, alors il était chargé de rétablir la sécurité et d'organiser des élections. Le 7 février, on devait avoir une passation de pouvoir avec le nouveau président et présidente élu, et puis un nouveau parlement également. Et comme vous savez, il n'y a pas eu d'élection depuis 2015, donc ça fait bientôt 10 ans qu'il n'y a pas eu d'élection, et disons 5 ans que tous les mandats ont expiré. Le président a été assassiné, les mandats du Parlement ont expiré, donc on est dans cette période de transition depuis 2021.
Mais sur le plan sécuritaire, on peut dire en tout cas qu'il n'y a pas eu d'avancée, puisque depuis l'arrivée au pouvoir de ce CPT il y a 22 mois, on décompte 10 000 morts de plus.
Alors effectivement, ils sont arrivés au pouvoir dans un moment qui était déjà très critique. Il y avait eu des avancées des gangs qui contrôlaient déjà une grande partie de Port-au-Prince. Il y avait une vraie menace, je dirais, d'un effondrement de l'État, et c'est ce qui avait provoqué cette réaction de la classe politique, ce accord très large, l'accord politique d'avril 2024 pour créer cette présidence collégiale qui, voilà, était constituée de représentants des principales forces politiques, avec effectivement la volonté d'avoir une rupture, d'avoir une gouvernance différente, plus efficace, et l'objectif de rétablir la sécurité. Et ça, malheureusement, continue à se dégrader. L'année 2024 a été terrible, avec à peu près 5 000 morts. Et l'année 2025, près de 6 000. Donc c'est des niveaux de violence qui n'ont jamais été atteints dans ce pays, qui a connu des épisodes de violence, mais jamais à ce point.
Vous parliez de la nécessité d'organiser des élections. La situation sécuritaire a entraîné leur report potentiellement au mois d'août 2026. C'est la date qu'on évoque désormais. Mais au vu de cette situation, peut-on vraiment croire que le scrutin pourra avoir lieu cet été ?
Je dirais que j'estime que c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, c'est évident qu'on ne pourrait pas tenir des élections. Ce serait ni possible, je dirais, du point de vue technique, logistique, avec une grande partie du pays qui est contrôlée par des gangs. Ce ne serait pas non plus souhaitable, parce qu'ils auraient une influence sur ce processus électoral. Il faut quand même le dire, parce que ça c'est quand même un élément nouveau, important, il y a une dynamique aujourd'hui de sécurité, d'une politique de sécurité plus efficace, et qui commence à montrer des résultats. Donc il y a, pour la première fois depuis longtemps, un petit espoir que les choses s'améliorent. Est-ce que ça sera suffisant pour organiser des élections selon le calendrier qui a été fixé fin août ? Je ne suis pas en mesure de le dire. C'est peut-être pas impossible. Et je pense que c'est important, de toute façon, qu'on ait, au moment où on organise des élections, une situation de sécurité suffisante et ça passe certainement par la réouverture des routes principales. Aujourd'hui, les grandes routes nationales qui partent de Port-au-Prince vers la province sont tenues par les gangs. Donc c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse organiser un processus électoral dans ces conditions, tout simplement parce qu'une grande partie des électeurs ne pourraient pas participer, les candidats ne pourraient pas faire campagne. Donc c'est très important, la priorité absolue, c'est le rétablissement d'un niveau de sécurité suffisant.
Pour en revenir effectivement à la situation sécuritaire, cette nouvelle force de répression des gangs approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en septembre dernier, qu'est-ce qui permet de croire aujourd'hui qu'elle rencontrera plus de succès, Antoine Michon ?
Alors bon, elle est le fruit, je dirais aussi, de l'expérience de la mission précédente. Et donc on a été plusieurs pays, dont bien sûr la France qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, à plaider pour cette nouvelle force qui a un mandat qui est plus robuste que la précédente, un mandat, je dirais, plus offensif, qui va être constitué de militaires principalement et non plus de policiers, et puis qui va compter 5500 hommes, là où la mission multinationale précédente n'a compté que jusqu'à 1000 hommes au maximum. Et donc ça va lui permettre de se déployer plus largement dans le territoire, sur le territoire haïtien, et puis surtout d'épauler, d'appuyer la police haïtienne, qui est quand même la première toujours en ligne sur le front, de façon plus efficace. Il y a un problème structurel, enfin, il faut en avoir conscience, en Haïti, depuis longtemps, c'est la faiblesse des effectifs de forces de sécurité. C'est pas la qualité ou le courage, parce qu'au contraire, on a des policiers qui sont très courageux et extrêmement méritants, mais ils sont très peu nombreux. Globalement, il y a 10 000 forces de sécurité dans un pays de 12 millions d'habitants. Tous les États voisins, la Jamaïque et la République dominicaine, qui sont confrontés à des phénomènes aussi de criminalité organisée transnationale, comptent 10 fois plus en proportion. Donc c'est vraiment, il y a presque une question physique. Vous ne pouvez pas assurer le contrôle du territoire avec si peu d'effectifs. Donc c'est pour ça que c'est si important aussi qu'il y ait cet appui international qui sera temporaire, mais significatif, et qu'en parallèle, les forces de sécurité nationale, les policiers et les militaires augmentent de façon progressive mais forte leurs effectifs pour pouvoir ensuite assurer cette responsabilité première de l'État qui est d'assurer la sécurité sur le territoire pour tous les citoyens.
Antoine Michon, on voit ces derniers jours les États-Unis s'activer autour de la question haïtienne. L'armée américaine a déployé mardi des navires de guerre après avoir affiché son soutien au Premier ministre en poste contre les membres du CPT qui voulaient le remplacer. Et alors aussi que Marco Rubio a évoqué sa volonté d'adopter une posture militaire contre les gangs. La presse haïtienne parle d'une double pression contre les gangs et sur le gouvernement. C'est ce que vous pensez aussi ? C'est un retour de la diplomatie, de la canonnière aujourd'hui ?
Bon, les bateaux qui sont présents dans la zone sont présents dans toute la zone de la mer des Caraïbes, et notamment essentiellement au large du Venezuela. Ils font partie d'une opération tournée contre le trafic de drogue qui est ici en Haïti un fléau majeur depuis des dizaines d'années. C'est un pays de rebond ou un pays de transit, mais bien sûr avec ce trafic de drogue mais vient la violence des groupes criminels qui en sont à l'origine, que ce soit en Colombie, au Venezuela, et donc lutter contre ce trafic de drogue, ça nous semble plutôt une bonne chose. C'est quelque chose qu'on soutient, nous aussi, très fortement. On a, nous aussi, des bateaux de la marine française qui sont pas engagés autour d'Haïti, mais aussi dans la mer des Caraïbes, et qui réalisent des saisies cette année quasiment 50 tonnes, enfin l'année dernière, en 2025, quasiment 50 tonnes saisies par la marine nationale française. Et ici, en Haïti, on travaille beaucoup avec la police nationale haïtienne pour renforcer ses capacités de lutte contre le trafic de drogue. Donc, c'est une posture et une politique qui est utile et qui est nécessaire.
Merci Antoine Michon, ambassadeur de France en Haïti. Très bonne journée.
Merci à vous.
la situation en Haïti que nous continuons d'évoquer toute la journée sur RFI. Notre édition spéciale à suivre à 7h10, temps universel. Il est pour l'instant presque 6h30 et le journal revient dans moins de 2 minutes. A tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
À l'occasion de la journée mondiale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, témoignages et questions de femmes, de militantes et de médecins.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Le devoir conjugal n'existe pas dans le droit français. Et pourtant, plus d'une femme sur deux reconnaît avoir déjà eu des rapports sexuels conjugaux sans envie. Comment expliquer cet héritage d'un autre siècle ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 6 11 80 41 89.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
L'agriculture sort des champs pour investir les villes. Sur les toits, dans les cours, les friches ou les rues, l'agriculture urbaine et biologique se développe. C'est un secteur d'avenir pour les jeunes.